Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur Ancrage, le podcast sur lequel on se pose la question « Qui ai-je envie d'être ? Quelles sont mes valeurs ?» Sur Ancrage, l'idée, c'est de se rencontrer, non pas de changer et de devenir la meilleure version de soi-même, mais tout simplement de se rencontrer ici et maintenant, là où on est, dont le but est d'accepter d'être pleinement humain, c'est-à-dire vulnérable, faillible, moche, beau. Ancrage, c'est un espace où l'on s'autorise à être pleinement soi et à laisser respirer toutes nos parts d'humanité. Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous remercier par rapport à l'accueil que vous avez réservé aux 3 précédents épisodes du podcast avec Isabelle Blanc, l'épisode sur le fait de vivre selon ses valeurs au quotidien et l'épisode réalisé avec Naïs Rakazan. Vous avez été entre 300 et 500 à écouter chacun des épisodes. Et vraiment, je voulais vous remercier parce que partager ces histoires-là, pour moi, ça a un sens profond. Et le fait que ça résonne chez d'autres personnes, ça me rend heureuse, tout simplement. Donc, merci pour tous vos retours. Et du fond du cœur, j'espère vraiment que les interventions des différents invités vous accompagne dans vos cheminements et surtout dans le fait de kiffer la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on va parler de silence. S'il y a un rituel que j'ai commencé à mettre en place depuis un an, c'est celui de partir pendant 3 à 5 jours, seul en retraite silencieuse, simplement histoire de me retrouver, et parfois de créer quand j'ai besoin d'être inspirée. Mais aussi parce que j'avais longtemps eu la sensation de ne pas entendre ma voix, ou du moins de ne pas la suivre. Et donc je me disais, pour entendre ma voix intérieure, il faut que je sois vraiment seule. Et donc que je sois en silence, sans téléphone, sans internet, sans distraction aucune. La retraite qui a inspiré cet épisode de podcast, je l'ai réalisée sur la dune du Pila, avec un livre néanmoins. Je lisais L'Alchimiste pour la deuxième fois. Et j'ai passé 5 jours sur la dune, c'était assez magique. Et de cette expérience silencieuse, je retire des espèces d'intuitions innocentes. C'est-à-dire des idées que j'avais jamais entendues qui me sont venues pour la première fois. Et je me dis que ça peut être intéressant de partager avec vous ce que ça peut apporter, le fait de simplement s'asseoir avec soi-même pendant plusieurs jours. Et de se rencontrer. Donc, c'est un épisode qui va être assez lent, parce que quand je l'enregistre, je reviens justement de ces 5 jours de silence et je suis très calme. Mais j'espère pouvoir vous transporter avec moi pendant ces 30 minutes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bon, déjà la première chose sur laquelle je voudrais revenir au sujet du silence, c'est une propre expérience que j'ai faite dans ma vie, qui était de me dire, quand j'avais à peu près 20 ans, en fait, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de voix intérieure. J'ai l'impression de ne pas m'entendre moi-même, de ne pas savoir écouter mes propres ressentis, de ne pas entendre ce que je veux vraiment, etc. Ou en tout cas, de ne pas le suivre. Parce que finalement, ce qui serait plus correct de dire, c'était « je n'arrive pas à suivre ce que je veux vraiment, je n'arrive pas à suivre ma voix ». Et en fait, j'étais encombrée peut-être par les autres voix. Donc les voix de la société, de ce qu'il faut faire, de l'héritage familial, de la culture, de l'environnement dans lequel tu es, etc. Et donc, il y avait toutes ces voix. Et souvent, je me disais, ok, donc c'est ça, mais en fait, c'était pas ça. Et je n'arrivais pas à savoir quelle était ma voix dans toutes ces voix. Et j'arrivais pas à m'entendre. Et donc la première chose que le silence m'a apporté, c'est faire de la place au bruit essentiel, en me désencombrant du reste. Parce qu'il y a une chose toute bête dans la nature, parce que moi du coup j'ai fait ma retraite sur la dune du Pila, et même si c'est silencieux, c'est pas du vide. C'est-à-dire qu'il y a les oiseaux qui chantent tout le temps, le vent souffle des nuages sur le soleil, et puis l'eau claque. Et c'est un peu cette image-là que j'aimerais reprendre quand je disais que, du coup, quand je fais cette expérience de silence méditatif, je fais de la place au bruit essentiel. Comme sur la lune du Pila, où il ne reste plus que les bruits essentiels, on est désencombré du bruit de la ville, alors ça laisse la place au bruit essentiel. Donc l'eau qui claque, le vent, les oiseaux. Si ça c'était l'image de ce qui se passe à l'intérieur de soi, ben quelque part, l'eau qui claque, c'est mon cœur qui bat. Le vent qui souffle, c'est peut-être des pensées qui passent. Et puis le chant des oiseaux, c'est mes émotions qui pétillent comme ça dans tous les sens. Finalement, c'est ma vie intérieure, c'est moi. Et donc la première chose que m'apporte finalement l'expérience silence, c'est me désencombrer des bruits non essentiels pour faire de la place à ma propre voix et m'entendre enfin. Cette expérience silence, elle m'a aussi apporté une profonde paix intérieure. Ou en tout cas, elle m'a connecté à ça à l'intérieur de moi. Ça m'a ancré vraiment dans l'ici et le maintenant. Parce que quelque part, dans une expérience silence méditative, sans distraction, il n'y a pas d'autre espace que maintenant. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de... La seule notion qui est, c'est la notion de maintenant, en fait. Et il y a des moments... Alors ça, je dirais que y a le rôle de la nature aussi là-dedans qui est très fort, mais passons sur des endroits comme la dune du Pila, c'est tellement beau que des fois, t'es comme en transe. Tu vois, tout s'arrête. Ton cœur bat au rythme des vagues et ne forme presque plus qu'un avec l'océan au loin. Toi, quelque part, tu pénètres aussi cette brèche de silence. Tes pensées passent et je dirais même plus, des fois, tu les entends même plus. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est un moment qui pour moi n'a rien à voir avec les mots, mais juste avec l'expérience. C'est l'expérience d'un calme où quelque part t'es en harmonie, en synchronisation profonde avec tout ce qui est autour. Et ça, voilà, c'est très agréable. Et ça donne aussi une profonde sensation, j'ai envie de dire, de connexion aussi. Parce que quand l'eau comme ça est calme et que je sens que mon rythme cardiaque se calme, c'est incroyable de se sentir connecté en fait au mouvement du tout. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'environne, qui est la nature, mais en même temps la nature c'est moi et je suis la nature. Comme on peut avoir tendance à l'oublier, je crois que c'est bien de se le rappeler. Mais quand je prends juste le temps de m'arrêter, de m'ancrer ici et maintenant, grâce au silence, par exemple, ben je reforme ce lien conscient avec ce tout. Et c'est vachement agréable de se sentir lié à quelque chose de plus grand que soi, je trouve. Parce que des fois, alors ça c'est très personnel, mais des fois, moi j'avais la sensation d'être un peu toute seule, de devoir me débrouiller face à la vie et ses complications, etc. Et là, quelque part, tu te connectes à un truc qui est plus grand. Et tu te rappelles que t'es pas toute seule. Et ça rassure. Et quand t'es rassurée, t'es en paix, t'es tranquille. Et la paix, tu vas pas la chercher finalement ailleurs qu'en toi. Donc voilà ce que ça peut offrir. Enfin moi, la deuxième chose que ça m'a profondément inspirée et apporté le silence. Ah oui, et après je voulais aussi parler effectivement du rôle de la nature dans tout ça. Dans le fait de, voilà, d'être connecté à ce truc plus grand, mais en fait qui est toi, quelque part. C'est à quel point elle nous pénètre d'un langage que j'ai envie de dire qui serait universel. Comme je le disais au début du podcast, pendant cette retraite silence, j'avais quand même une distraction. C'était un livre. C'était L'Alchimiste de Paolo Coelho que je relisais. C'est ma deuxième lecture de L'Alchimiste. Et donc forcément, le langage universel de l'alchimiste, le langage de l'univers, est-ce qu'il y aurait un langage? C'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée pendant cette retraite. Par exemple, quand connectée dans cette expérience silence-là, j'ai eu l'impression d'être connectée des fois à des vérités un peu absolues, des vérités. Alors, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais en tout cas, d'être connectée à des choses comme le fait que tout soit toujours impermanent. C'est-à-dire que tu peux te lever un matin et le ciel est complètement dégagé. Et 5 minutes plus tard, ça tourne et il y a une averse terrible. Et puis tu finis l'après-midi sous 30 degrés sur la dune en maillot de bain parce qu'il fait super chaud. Et puis après tu peux aller dormir et il fait très beau, le coucher de soleil vraiment brûle le ciel d'un orange incroyable. Et puis tu t'endors et puis à 5h du matin, tout d'un coup il y a un tonnerre terrible. Et voilà, vois que tout change tout le temps dans la nature. C'est aussi une manière de se rappeler que tout change tout le temps, peut-être au sens large aussi. Puisque encore une fois, si nous sommes la nature et que la nature c'est nous, alors ce qui est vrai dans la nature, c'est vrai en nous. Et ça, ça aide à se reconnecter à des choses toutes bêtes, mais quand par exemple des fois dans la vie, moi je sais que je pouvais avoir tendance à refuser d'aller mal, ou pas forcément dire voilà, là ça va mal. Comme si finalement le fait de reconnaître un état allait m'ancrer dans cet état-là pour toujours. Alors que non, puisque tout change tout le temps. Donc effectivement, des fois, il y a des états qui sont difficiles, qui sont désagréables, mais c'est ok. Et en plus, ça va changer. Et il y a une autre petite anecdote que j'aimerais partager aussi, une autre leçon que m'a enseignée, j'ai envie de dire, mon petit désert, ma petite dune. C'est qu'à un moment donné, j'étais sur la dune du Pila. Et pour les personnes qui connaissent, la dune, elle est assez raide quand tu la descends, mais surtout quand tu la remontes. Et alors moi, symboliquement, je l'ai associé à ce que j'ai vécu là ces 2 dernières années. Pour les personnes qui savent pas, je joue au handball et il y a 2 ans, enfin et l'année dernière, j'ai arrêté de jouer pour 1 an. J'ai décidé de prendre une pause. Mais j'avais été blessée avant, donc ça faisait 2 ans que j'avais pas joué. Et là, cette année, pendant 6 mois, j'ai fait ma préparation physique toute seule avec mon prépa physique. J'ai essayé de me voilà, j'ai fait en sorte de me remettre en forme pour pouvoir refouler les terrains pour la saison 2022-2023. Et donc pour moi, j'étais symboliquement en bas de la dune. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est vrai que quand même, c'est dur de remonter la dune. Il y a des moments où tu suffoques un peu, t'as du mal à respirer, t'as mal aux jambes. Et là même, je sens que mon rythme cardiaque s'accélère, ça me fait rire. J'ai organisé cette retraite silencieuse sur la dune à la fin de ma préparation physique de 6 mois. Donc pour moi, quand ce jour-là, je suis partie me baigner en fait dans l'eau, j'ai donc descendu la dune du Pila, et au moment de la remontée, symboliquement pour moi, j'étais en face de l'année que je venais de passer. Et je me disais, waouh, c'est dur de monter la dune du Pila, donc au sens propre. Parce que j'étais vraiment allée me baigner et ce jour-là il faisait très chaud, il y avait un soleil de plomb et donc monter la dune, vu comme elle est raide, c'est toujours un vrai effort physique. Mais c'était aussi vrai au sens figuré. Et quelque part je me disais, putain, c'était dur aussi de faire cette préparation physique-là pendant 6 mois toute seule, de revenir après 2 ans sans jouer. C'était vraiment dur. Et à ce moment-là, quand je pense à ça, il y a le vent qui souffle un nuage sur le soleil. Littéralement. Il y a un nuage qui passe au-dessus de ma tête, qui fait que je finis ma montée de la dune à l'ombre. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a encore la vie qui m'enseigne quelque chose. C'est que, ou en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai décidé de l'interpréter. C'est que parfois dans la vie, quand tu seras en haut d'une dune, bah, tu décideras de la redescendre et peut-être de la remonter plus tard. La remontée peut être difficile, elle peut être éprouvante, mais sache que la vie te facilitera et fera appel au vent qui soufflera un nuage sur le soleil pour que tu puisses terminer ta route à l'ombre. Et ça, voilà, c'est très imagé parce que forcément j'étais sur la dune et ça permet de mettre une image un peu poétique dessus, mais c'est un peu comme ça que j'ai décidé d'interpréter ce moment que j'ai vécu sur la dune, associé à un souvenir et une année qui a été éprouvante par moments, où pour le coup, souvent, il n'y avait pas de vent, et donc il y a le soleil qui tapait fort, c'était difficile, ça faisait mal aux jambes, mal à la tête, etc. Mais il y a eu des moments quand même où le vent a soufflé des nuages sur le soleil pour que je puisse avancer à l'ombre. Et l'idée qu'il y a derrière ça pour moi, c'est que quelque part, il y a un principe favorable, comme l'écrit Paulo Coelho dans l'histoire de Santiago, dans l'alchimiste, c'est qu'il y a comme un principe favorable. La vie t'accompagne dans ce que tu dois vivre. Enfin voilà, moi je crois profondément que par défaut, la vie est bienveillante. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vient pas avec son lot de difficultés. Je crois que c'est juste un paradoxe à négocier. En fait, c'est ça aussi ce à quoi m'a connecté le silence, c'est un peu ce mystère et tous ces paradoxes que la vie semble me présenter. Et justement, une autre leçon que je me suis vue enseigner, notamment sur cette notion de bienveillance de la vie par rapport à nous, c'est qu'en observant le mouvement de l'eau, qui avance comme ça, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu sans le moindre effort. Bah, à un moment donné, j'observais le mouvement de l'eau et j'entendais en même temps le battement de mon cœur. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, mon cœur bat et il n'a pas besoin de moi. C'est-à-dire qu'en fait, la vie circule comme un courant d'eau à travers moi et moi, je n'ai rien à faire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. J'ai juste à être. C'était à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas. Si ça, c'est pas la preuve que la vie, c'est un cadeau, ben je sais pas ce que c'est. Ça, c'est ce que j'appelle mes petites intuitions innocentes. Parce que, au fond, quand je le dis comme ça, c'est vrai que c'est tout à fait évident, je crois, que la vie nous est offerte et qu'elle est donc un cadeau. Mais, en tout cas, pour moi, jusqu'ici, c'était pas aussi évident que ça. Et surtout, ça plonge dans une profonde gratitude. Ça m'a plongée dans une profonde gratitude, une profonde envie de dire merci. Et puis, des fois, je pénétrais des endroits où je me mettais à sourire pour rien. Genre, j'ai éprouvé une joie sans objet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un. Il n'y avait rien. Tu vois, c'est pas j'ai vu le sourire de quelqu'un, je souris, ou j'ai vu un truc, donc je souris. C'était une joie comme ça. Tout d'un coup, j'étais prise de moments de joie, mais sans objet. Juste la joie d'être là. Enfin, c'est même pas la joie d'être là, c'est juste la joie, en fait. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'objet, c'était juste ça. Et quand je constatais ça, je me disais, ah, c'est marrant d'éprouver de la joie pour rien. Voilà, t'es juste tranquille, quoi. Et donc, ça, c'était très, très agréable. Donc ça, c'était la partie agréable. J'ai fait une longue partie agréable sur cette expérience silence. Après, il peut y avoir des moments un peu plus douloureux. Parce qu'effectivement, dans les phases de silence, il y a aussi des moments de résistance de l'esprit. Surtout quand c'est sur toute la journée, pendant plusieurs jours, etc. Il peut y avoir des moments de résistance. Alors après, comme je l'ai dit, moi, j'avais quand même comme distraction un livre. Donc quand je m'ennuyais, enfin, je sais pas si c'était de l'ennui, mais en tout cas quand j'avais envie de faire autre chose. Je pouvais me dire, bon bah voilà, je prends mon livre et je vais faire autre chose. Ou sinon, je partais me balader, marcher sur l'eau. Enfin, vous m'avez comprise. c'est tout poésie aujourd'hui. Et voilà, mais c'est vrai que quand il n'y a pas les distractions du type livre ou balade, ça peut être un peu rude, je pense, pour l'esprit. Mais en tout cas, moi, il y a eu des moments quand même où c'était un peu. Ok, il y avait des choses que je ressentais, que je voulais pas forcément ressentir, que des fois j'acceptais pas de ressentir. Je me disais, ok, bon, laisse, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et en fait, ça passait pas. Et le truc, c'est que j'ai senti qu'en fait, il fallait que j'aille voir ces fameuses zones d'ombre qu'on n'a pas envie d'aller voir dans le noir parce que des fois, ça nous fait un peu peur à l'intérieur de nous. Je constatais qu'il y avait souvent cette énergie-là de colère qui montait. Et pour moi, c'est hyper intéressant de s'intéresser à ces émotions parce qu'il y a une phrase qui a été partagée par Likasa il n'y a pas longtemps que j'adore, qui dit que toutes les émotions sont légitimes, mais que par contre, tous les comportements qui en découlent ne le sont pas. Et pour moi, ce qui justement me semblait intéressant dans le fait d'essayer de comprendre ma colère, c'était de la rendre légitime à mes yeux, de m'autoriser en fait à être en colère pour pouvoir ensuite choisir en conscience les comportements que j'ai envie d'avoir quand je suis en colère. Parce que quand je ne m'autorise pas à être en colère, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas bien, que ma colère s'exprime malgré moi en fait. Tu vois, quand tu refuses de dire à quelqu'un de manière directe ce que tu ressens, en tout cas moi ça peut être mon cas, bah, ça se fait de manière dérobée, par des pics dans lesquels tu peux ne pas dire grand-chose mais faire très mal. Et je crois que en laissant respirer mes émotions, je m'offre la possibilité de choisir la manière dont j'ai envie de me comporter et surtout je me laisse être pleinement humaine quoi. Je m'autorise à être imparfaite quelque part. Parce que je pense que j'avais aussi intégré l'idée qu'être colérique, c'était imparfait aussi. Alors qu'en fait, non, ça fait partie de la palette des émotions. Et donc, plutôt que d'être colérique malgré moi, bah, je préfère être colérique parce que je suis humaine, quoi. Et je pense justement que retrouver cet espace de tranquillité intérieure, ça va aussi des fois avec exploser, péter complètement. Et justement, c'est pas antinomique. Je pense que c'est des choses qui s'intègrent l'une dans l'autre. Être profondément traversé par des vagues d'émotions très fortes, très virulentes, qui tapent comme le tonnerre, ne dit pas d'une personne qu'elle n'est pas en paix, qu'elle n'est pas tranquille en fait. Et au même titre que les émotions récurrentes, dans le silence, t'as aussi l'occasion d'entendre les pensées qui reviennent, de voir quelles sont tes priorités du moment. Est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent? Est-ce que... il y a des questions qui ne sont pas encore élucidées pour toi. Et je pense que c'est un espace aussi où c'est super intéressant peut-être d'avoir un papier et un stylo si tu décides de faire une retraite créative dans laquelle tu te permets quelques distractions. Ou même si tu ne le fais pas forcément dans le cadre d'une retraite silencieuse, mais prendre le temps de t'asseoir 10 minutes, une heure pour écouter quel est l'ordre du jour pour toi. Quelles sont les pensées qui reviennent souvent, sur plusieurs jours, pour voir en fait quels sont tes importants, quels sont les endroits où tu te sens bien, les endroits où tu te sens pas bien, ce que tu voudrais développer, ce que tu voudrais créer, ce que tu voudrais changer, ce que tu voudrais commencer, quitter. C'est un espace où vraiment, plus que du vide et du non-bruit, pour moi on entend ce qui est important pour soi. Et je dirais que c'est peut-être ça ma leçon vraiment principale du silence, c'est que c'est un espace de pure créativité. Il se passe plein de choses, j'entends plein de choses, je me rappelle de plein de choses, j'ai plein d'idées. Et je suis convaincue que même s'il y a des moments où ces idées-là, c'est des idées qui font peur, des trucs un peu challengeants, des trucs qui vont demander de sortir d'une certaine zone de confort, c'est surtout des idées créatives. Parce qu'elles sont juste inspirées par ce qui vient de notre fort intérieur, j'ai envie de dire. Et puis après, il peut y avoir aussi tous les sujets qui nous préoccupent. Si on se sent pas bien là où on est, ça nous donne des informations en fait sur nous-mêmes. Et je trouve que c'est un espace vraiment précieux pour ça. Par exemple, moi c'est juste en sortant de cette expérience-là que j'ai décidé d'enregistrer ce podcast. Donc là, je suis rentrée il y a 12 heures. Et avant de me coucher, je me suis dit, il faut vraiment que je cristallise, que je saisisse dans le son, dans la vibration de l'air, de l'univers, de tout ce qui s'est passé pour moi là. Et parce que j'ai senti que j'étais profondément inspirée. J'ai eu plein d'inspirations, plein d'idées, reçu plein de petits messages, plein de petites leçons, plein de trucs qui, voilà, que j'ai envie d'emmener avec moi et que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà. Pour tout ce qui est, on va dire, ce qui va être un peu plus difficile, plus douloureux, ce qui fera un peu plus mal au cœur, Il faut se dire que en fait, en tout cas, moi c'est vraiment l'expérience que j'en fais, c'est que quand tu pénètres la brèche, bien sûr, t'es dans le noir pendant un moment, mais en même temps, ça laisse la place à des fulgurances lumineuses, comme un soir de tonnerre. Et là, tu vois apparaître les arbres, en fait. Tu vois, t'es dans le noir complet, et là, il y a une fulgurance lumineuse, une idée forte qui vient, qui est puissante. Quelque part, tu sais qu'elle est vraie, c'est une vraie profonde inspiration. Et en plus, l'inspiration, c'est, tu vois, c'est le souffle, c'est... C'est une inspiration, en fait. T'es inspiré par la vie en toi qui te dit, voilà. Voilà ce que tu peux faire. Je dirais que c'est aussi... C'est peut-être ça, l'intuition, aussi. T'es reconnecté à l'intérieur de toi, à tes sensations, à ce qui est vrai pour toi. Donc, tu cultives aussi ton intuition. Et après, c'est à toi de le saisir, de l'expérimenter, de voir comment tu voudrais essayer de le manifester. Et comment est-ce que tu pourrais le transformer. Comment tu pourrais matérialiser finalement ton esprit. Ce qui est parti de ton esprit, de ce silence. Et voilà. Et peut-être une dernière chose que j'aurais envie d'ajouter par rapport à ça, sur le rôle de la nature. Il y a Matthieu Ricard, le moine, qui disait... Dans une interview, enfin un documentaire qui est sur Netflix, qui est super. À un moment donné, on lui dit, mais vous voyez, quand vous méditez dans un endroit qui est magnifique comme ça, est-ce que finalement c'est pas plus facile, bah, pour accéder à la paix, au calme, tout ça, et à avoir un esprit plus clair, plus serein, qui peut trouver des idées, des... Et là, il répond, bien sûr, dans un endroit aussi beau, quelque part, on ne se lasse jamais. Et on est toujours fixé, ancré dans l'instant présent, ici et maintenant, avec une forme de clarté, de lucidité, parce que la beauté, quelque part, nous dépouille, nous désencombre de tout ce qui est futile et laisse place à l'essentiel. Et laisse place à la clarté d'esprit. À ce qui compte vraiment, à ce qui est essentiel. Mais en même temps, il ajoute que ressentir une profonde paix, un profond sentiment de contentement, faire vraiment l'expérience d'un esprit serein et plus clair, est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vivre au fin fond de l'Himalaya dans une grotte pour éprouver une paix intérieure. Il y a plein d'instants dans notre vie où on est en contact avec cette paix-là. Quand on dîne avec des amis qu'on aime du plus profond de notre cœur, quand on réussit un projet qui était super important pour nous, pour lequel on s'est défoncé, on a tout donné, quand on se lève le matin et qu'on a le sourire parce que le ciel est bleu, ou parce qu'il pleut. Et qu'on va pouvoir mettre ses bottes de pluie pour sauter dans les flaques. Voilà, il y a plein de moments où on est connecté à ça. Il y a plein d'instants. Et l'idée, simplement, c'est de se dire que c'est vrai qu'il y a des endroits, des moments, des parenthèses qui nous rappellent que c'est là. Et que c'est juste à nous, quelque part, de faire le mouvement conscient d'y être. Donc c'est pas quelque chose qui dépend, en fait, de l'extérieur, même si l'extérieur va nous influencer, bien sûr. Et j'avais envie de finir en revenant juste sur cette idée que, en fait, faire le silence, avant tout, selon moi, c'est faire de la place à l'essentiel. Je vous parlerai souvent dans le podcast de minimalisme parce que j'adore la déco et tout. Et dans le minimalisme, avant tout, c'est pas juste désencombrer sa maison, des meubles ou des vêtements qu'on n'utilise pas. Effectivement, c'est ça. Enfin, ça peut faire partie, ça fait partie du processus. Mais c'est surtout l'état d'esprit, c'est se dire, on se désencombre du superflu pour faire plus de place à l'essentiel. Et quelque part, l'expérience silence, c'est vraiment faire de la place, libérer de la place à ce qui est essentiel pour soi. Que ce soit nos ressentis, les ressentis du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental. du corps spirituel, ça fait de la place à tout ça. Des fois, ça invite à pénétrer des brèches assez obscures, mais dans lesquelles il y a toujours des fulgurances lumineuses qui donnent plein d'idées, des inspirations, de la créativité. Les idées dont on va avoir besoin justement pour créer la manifestation dans le monde matériel de notre vie intérieure. Et puis surtout l'idée qui moi a vraiment fait battre mon cœur pendant cette retraite et continue à le faire battre, c'est de se dire que quand tu pénètres cet espace de silence, ou en tout cas moi quand j'étais bercée comme ça par l'eau, il y a vraiment ce truc moi qui m'a obsédée, c'est de me dire il y a l'eau elle passe comme ça sans le moindre effort, et moi mon cœur il bat aussi sans qu'on ne m'ait rien demandé. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'activer un bouton pour que la vie me traverse. Et pour moi, c'est la preuve que la vie est un cadeau. Je sais pas comment je fais le raccourci dans ma tête, mais c'est comme ça que je le perçois. Et ça, je trouve que c'est tout doux. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous donnera un espace justement pour cheminer sur votre propre dune et laisser la trace que vous avez envie de laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast si vous avez un Mac ou un iPhone, ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Bisous!